Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des hommes les plus influents du siècle dernier que Franck Ferrand a choisi d'évoquer cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les éditions de Fallois viennent de faire paraître une biographie de Charles Hogbeeb qui s'appelle tout simplement Henry Kissinger, un des noms les plus prononcés dans le monde il y a une quarantaine d'années. Alors qui est vraiment Kissinger et quel a été son rôle dans l'évolution du monde? C'est la question, ou l'une des questions que nous allons poser à André Caspi dans un instant.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Chris sur l'origine de l'expression « une armée mexicaine ».
Le fait est que l'on connaît un certain nombre d'organisations qui suscitent cette comparaison, signe des temps. Pour le moment, nous allons nous plonger dans un univers qui n'avait rien d'une armée mexicaine, la Maison Blanche au temps de Nixon.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le docteur Kissinger, comme on disait dans mon jeune temps, est aujourd'hui un vieux monsieur de 92 ans. Et s'il conserve une aura considérable, c'est qu'il a marqué la politique internationale pendant une bonne décennie, de la fin des années 60 au bon milieu des années 70. Il a dirigé le Conseil de sécurité nationale pendant la présidence de Richard Nixon. Il a ensuite été secrétaire d'État pendant la présidence de Gerald Ford. Ses conseils sur les événements internationaux sont encore aujourd'hui très recherchés. Il fait partie de, j'allais dire des pères, en tout cas de ceux que dont on écoute beaucoup les avis dans les cercles républicains. Le président George W. Bush, par exemple, avait consulté publiquement Henry Kissinger au moment des attentats du 11 septembre 2001. Alors, pourtant, au moment où Richard Nixon nomme Kissinger, donc on est juste après la victoire à la présidentielle en 68, Nixon se méfie de cet universitaire venu de Harvard et que le New York Times surnomme l'occidental énigmatique. L'un et l'autre vont former un tandem uni certes par une même ambition. Cette ambition est essentielle, il s'agit de créer un nouvel ordre mondial. Et en même temps, c'est un tandem assez déséquilibré. Alors revenons à l'origine, si je puis dire, le 25 novembre 1968. Richard Nixon vient de remporter la présidentielle face au candidat démocrate Humphrey. Et il est à son quartier général à New York. On est à l'hôtel Pierre à New York. C'est ce gratte-ciel blanc là qui est face à Central Park, bel hôtel. Henry Kissinger est en train d'entrer dans cet hôtel. Il a 45 ans. Les deux hommes se connaissent. Ils se sont déjà rencontrés un certain nombre de fois. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette rencontre ne donne rien, si je puis dire. C'est-à-dire que Kissinger entre dans le bureau de Nixon, il y reste pendant un assez long moment, et lorsqu'il sort, eh bien, il n'est pas plus avancé qu'avant. À mon avis, en rentrant chez lui ce soir-là, il a dû être un peu surpris. Sauf que deux jours plus tard, évidemment, et c'est souvent comme ça que se passe ce genre de nomination, Kissinger rencontre celui qui a été le directeur de campagne de Nixon et qui lui propose le poste de conseiller à la sécurité nationale, convaincu du reste que le poste lui avait été officiellement proposé par Nixon deux jours plus tôt au moment de leur rencontre. Nixon, en fait, veut nommer Kissinger à la tête du Conseil de sécurité nationale. Kissinger va accepter tout ça dans les jours qui suivent. Nixon veut faire de la Maison Blanche le centre de commandement de l'action internationale des États-Unis, nous dit Charles Hogbeeb, et le Conseil de sécurité nationale, animé par Kissinger, sera le levier de cette prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus le secrétariat d'État et ce n'est plus l'énorme administration diplomatique américaine qui va gérer la politique étrangère, c'est carrément la Maison Blanche, c'est ça l'idée. Alors, évidemment, Kissinger est très fier de cette nomination, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que d'emblée, il s'est méfié de Nixon, en qui il n'a jamais cru. D'ailleurs, il y a un fait tout à fait parlant, c'est que aux élections de 64 et de 68, Kissinger avait soutenu un autre républicain à la primaire, qui était Nelson Rockefeller. Il faut vous dire que les deux hommes, Nixon d'un côté, Kissinger de l'autre, n'ont vraiment, mais alors véritablement rien en commun. Richard Nixon, nous en avons parlé à ce même micro il n'y a pas si longtemps, c'est l'Amérique profonde, si je puis dire. C'est l'Amérique des petits fermiers du Midwest et du Sud californien, des gens qui ont lutté pendant la Grande Dépression. La famille de Richard Nixon est modeste et lui-même a obtenu une bourse pour suivre ses études. Son éducation a été marquée par les valeurs conservatrices des Quakers de la grande époque, et on était dans des familles où il fallait s'abstenir de boire, de danser, de jurer, enfin on connaît le puritanisme américain. Et à titre personnel, dans son tempérament même, Nixon est un solitaire, un introverti et surtout un homme, il a eu l'occasion de le dire suffisamment souvent, un homme qui n'aime pas les intellectuels. Or, en face de lui, ce qu'il a, c'est un intellectuel pur sucre. Quand je dis intellectuel, grand professeur de Harvard, issu de cette espèce de la grosse pomme, hein, de ce New York cosmopolite, lui-même est naturalisé américain puisqu'il est né juif allemand. Henry Kissinger était né le 27 mai 1923 à Fürth, en Bavière, petite ville de Bavière, hein, qui est à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Nuremberg, ville ouvrière réputée pour sa grande tolérance religieuse, puisque les protestants, les catholiques et les juifs se côtoyaient dans cette ville. Le père d'Henry Kissinger, qui d'ailleurs s'appelait Heinz Kissinger quand il était jeune, son père est instituteur, sa mère est femme au foyer. Ce sont des juifs orthodoxes très affirmés. Heinz et son frère Walter, devrais-je dire, ont appris l'hébreu. Dans la famille, on respecte les fêtes religieuses. Avant d'aller à l'école, tous les matins, ils passent par la synagogue. Enfin, vous voyez, bon. Or, évidemment, en 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le climat politique à Fürth s'assombrit considérablement. Hitler a d'ailleurs dit dans un de ses discours que Fürth était une ville juive. Heinz va être chassé de son lycée. En 38, il quitte l'Allemagne avec ses parents et son frère pour fuir évidemment les persécutions raciales. Il arrive aux États-Unis, à New York, alors avec des premières années qui sont un peu difficiles, mais quand il va avoir 20 ans, donc en 1943, Heinz deviendra Henry, il est naturalisé américain, il est mobilisé, il s'en va en Europe, il rentre, je devrais dire, en Europe, et il va faire la campagne en Allemagne. Donc le voilà de retour en Allemagne, où il est chargé de dénazifier la ville de Krefeld. Il devient d'ailleurs l'administrateur militaire de cette cité industrielle, on n'est pas loin de Düsseldorf. Il deviendra ensuite instructeur à la branche européenne de l'école des services de renseignement américains. Bref, quand Henry Kissinger, parce que maintenant il est devenu américain, rentre aux États-Unis, il a derrière lui tout ce passé, bien entendu, de guerre. Il va rentrer en même temps aux États-Unis et à Harvard. Alors c'était le jeune homme un petit peu timide jusqu'ici, qui va faire des études extrêmement brillantes, devenir docteur en sciences politiques, avec une thèse sur la diplomatie entre 1812 et 1822, qui était réputée comme la thèse la plus épaisse jamais déposée sur un bureau de l'université Harvard. Il devient bientôt professeur à Harvard, adjoint au directeur du Centre des Affaires Internationales. Bref, rien, mais alors rien à voir avec la biographie de Richard Nixon.
Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, Franck, vous nous emmenez sur les pas du politologue et diplomate Henry Kissinger.
Eh oui, alors ce Kissinger s'est rendu sinon célèbre, en tout cas il est un peu connu parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Nuclear Weapons and Foreign Policy, c'est-à-dire les armes nucléaires et la politique étrangère, un ouvrage très important dans la doctrine de la dissuasion atomique, puisque c'est le début, quand je dis c'est le début d'ailleurs, il reprend en tout cas et il développe la thèse d'une réponse graduée. Vous savez qu'on en était encore dans le maniement, si je puis dire, de l'arme atomique, on en était encore à l'idée d'une riposte massive. C'est-à-dire, vous m'attaquez sur mon territoire, je vous vitrifie de pied en cap. Et sauf que, évidemment, cette riposte massive finissait par acquérir, les années passant, une dimension un peu théorique. Et ce qui va rendre cette dissuasion atomique de plus en plus concrète, c'est le côté réaliste de la réponse graduée voulue par Kissinger. Et ça, bien entendu, ça va l'amener à rencontrer de plus en plus d'hommes politiques et à faire littéralement son entrée en politique. Alors, Nixon l'a reçu, je vous l'ai dit, il l'a nommé et il a une intention très claire, c'est de faire de Kissinger son plus proche collaborateur. Le ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle aux États-Unis le secrétaire d'État, dès lors n'aura qu'un rôle de second plan. Nixon veut une révolution diplomatique. Il estime que toute cette très pesante diplomatie bureaucratique, en quelque sorte, n'est plus assez efficace. Il s'entoure d'hommes d'action et d'intellectuels. Il y a parmi eux notamment le colonel Alexander Haig, qui est un ancien du Vietnam, titulaire d'une maîtrise en affaires internationales de l'université de Georgetown. Vous voyez le petit groupe, le petit brain trust, si j'ose cette expression, qui se forme autour de Richard Nixon, avec comme ambition un changement de cap radical dans la diplomatie. Et ça se voit dès le 20 janvier 69, jour de l'investiture de Nixon. Le nouveau président, ce jour-là, parle de l'entrée des États-Unis dans une ère de négociation. Vous voyez qu'on entre dans quelque chose de concret, de réaliste en quelque sorte, dans une forme de néo-réal politique telle qu'on l'avait pratiqué dans le vieux monde un siècle plus tôt. La feuille de route des conseillers du président est claire. Il s'agit bien sûr toujours de lutter contre le communisme à l'échelle mondiale, de mettre fin à la guerre du Vietnam dans laquelle les États-Unis ont eu tendance à s'embourber depuis plusieurs années et, peut-être par-dessus tout ça, à limiter cette course aux armements par la limitation des arsenaux nucléaires américains et soviétiques, bien entendu. Kissinger considère que l'ordre mondial ne peut plus se limiter à cet équilibre fort instable au demeurant entre deux grandes puissances. Pour les États-Unis, pense-t-il, et il a fait de nombreuses conférences sur le sujet, il serait judicieux de trouver un allié de poids pour contraindre l'Union soviétique à discuter, pour la contraindre à négocier. C'est ça le réalisme politique, seulement un allié de poids. Lequel voulez-vous que ce soit dans les années à la fin des années 60? Ça suppose évidemment d'entrer, de prendre langue, comme on dit dans la diplomatie, d'entrer en négociation avec l'autre grande puissance communiste, c'est-à-dire avec la Chine. Vous imaginez un peu le traumatisme, si je puis dire, d'autant plus que, n'oublions pas, cette guerre du Vietnam qui est là, qui est très présente. D'ailleurs, Kissinger le dira lui-même, il disait « Si ce n'était cette guerre du Vietnam, ma tâche serait des plus plaisantes. » Eh oui, mais malheureusement, la guerre est là, elle constitue un véritable gouffre financier, elle constitue surtout un énorme problème politique et social. Dites-vous que de 23 000 hommes en 1964, peu après la mort du président Kennedy, on est passé du temps de l'administration Johnson à 525 000 engagés dans cette guerre du Vietnam en 1968. Il faut donc trouver un plan de sortie, et ça ne peut pas se faire ça en 3 mois de temps, bien entendu. Alors, je reviendrai dans un instant avec André Caspi sur cette guerre du Vietnam, sur le rôle de l'administration Nixon dans la sortie de guerre et surtout sur le rôle personnel de Kissinger, bien entendu. Dites-vous que pendant que la situation au Vietnam continue de s'envenimer, peut-être bien plus encore que ce qu'on aurait pensé, en juillet 1971, Henry Kissinger part pour Pékin. Alors là, attention, en mission secrète, ultra secrète. Kissinger admirait beaucoup, par-delà les siècles, Marco Polo, qu'il considérait comme une sorte de pionnier. Il va appeler sa mission Polo 1. Alors il est reçu à Pékin par le premier ministre chinois, Zhou Enlai, avec un objectif qui est clair, c'est mettre sur pied un sommet sino-américain pour faire contrepoids à l'Union soviétique. C'est toujours ça, bien entendu, l'espèce d'obsession. Ce qui veut dire qu'entre parenthèses, on est en train de sortir de Yalta. On est en train d'instaurer à l'échelle du globe une diplomatie triangulaire à laquelle les personnes de l'époque n'étaient plus du tout habituées. Quelques mois plus tard, En février 72, faut imaginer un temps glacial, on l'a beaucoup dit et raconté, Kissinger accompagne le président Nixon, tous deux atterrissent à Pékin et là ils vont être reçus par le vieux mais néanmoins toujours présent Mao. Mao Zedong, bien entendu. Kissinger est impressionné par Mao. « Je n'ai jamais senti une telle densité de volonté concentrée, sauf peut-être chez De Gaulle », dira-t-il. Kissinger et Nixon ont réussi leur pari. Kissinger va pouvoir effectuer de nouveaux voyages en Chine. D'ailleurs, les journalistes américains disent « la Chine, c'est le pays de Kissinger ». Mais pour lui, la Chine, ce n'est qu'une étape, bien entendu, puisque, je vous rappelle, l'objectif principal, l'objectif final, c'est de négocier sur l'épineuse question des arsenaux nucléaires américains, certes, mais surtout et en face soviétiques, ce qui explique que dès le printemps 1972, nouvelle mission ultra secrète, Kissinger décolle cette fois, direction Moscou.
Et tous les jours, vous pouvez réagir à l'émission, soit sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire ou sur Twitter. On attend vos messages avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1 pour la suite de son récit sur Henry Kissinger.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Grande figure médiatique, homme d'État, politologue, prix Nobel. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir le parcours d'Henry Kissinger.
Je vous avoue, Anissa, que j'aurais bien aimé être petite souris dans la suite de Kissinger quand il est arrivé à Moscou pour cette visite secrète. Mission tout à fait importante puisqu'il s'agissait de préparer un sommet américano-soviétique. Vous imaginez, alors, il avait peur de tout, forcément. Vous imaginez ce que c'était que le KGB à l'époque, les espions dans tous les coins. Donc, évidemment, faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Il a examiné sous tous les angles le coffre-fort de la résidence, mais il s'est dit que c'était pas assez sûr. Donc, Kissinger était arrivé, il avait avec lui un magnétophone et une cassette sur laquelle on avait enregistré plusieurs conversations superposées. Donc, ça faisait un brouhaha terrible. Et quand il avait un coup de fil à passer, il appuyait sur son, il lançait son, la bande. Et alors, ça donnait un brouhaha dans la pièce et il parlait par-dessus. Le problème, c'est que lui-même s'entendait plus au téléphone. Tout ça devait quand même être assez folklorique. Alors, il n'empêche, un mois plus tard, le 22 mai 1972, l'avion présidentiel américain atterrit à Moscou. Et c'est la première visite officielle d'un président américain en Union soviétique. Vous imaginez alors? Et évidemment, c'est Brejnev qui est en face. Donc, grande rencontre Brejnev-Nixon. Les photographes du monde entier s'en donnent à cœur joie. Quand je dis du monde entier, tout, il faut passer par l'agence TASS, évidemment. Hein, mais ça fait la une de tous les journaux. Ça paraît incroyable. Pendant 3h30, le secrétaire général du Parti communiste, donc Brejnev, va faire la leçon à Nixon sur la politique menée au Vietnam. Il n'empêche, on n'en signe pas moins un certain nombre d'accords, et notamment des accords sur la limitation des armes stratégiques. Il y en a deux qui sont en préparation. L'un que l'on pense définitif à cette époque sur la limitation des armes défensives, et puis l'autre, qui est un accord plus provisoire, sur le gel des armes offensives. Donc les accords SALT 1, c'est comme ça qu'on les appelle, sont signés le 26 mai 1972 avec la définition de deux sites défensifs dans chaque pays. Bon, j'entre pas dans tous les détails des accords SALT. Pour la limitation des armements stratégiques offensifs, là c'est un peu plus compliqué. Elle est signée, cette limitation, conclue pour une durée de 5 ans et elle ne concerne pour l'instant que certaines armes. Il n'empêche, c'est une réussite incroyable pour Kissinger qui vient après la réussite du voyage en Chine. Donc vous voyez, il passe un peu pour l'espèce de super diplomate à l'échelle planétaire, ce bonhomme. Newsweek le présente en couverture en Superman. Il est, vous savez, vous l'avez sans doute vu, cette caricature. Et il est d'ailleurs à ce moment-là sur deux couvertures en même temps, puisqu'il fait celle de Time et celle de Newsweek en même temps. Si les accords SALT et le rapprochement avec la Chine sont des réussites, il ne faudrait pas croire qu'il n'y a pas entre Nixon et Kissinger un certain nombre de crises. Il y en a même de terribles sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. On va décerner bientôt, quand je dis « on », le comité Nobel va décerner à Kissinger, vous venez de le dire Anissa, le prix Nobel de la paix, en même temps d'ailleurs qu'à Ludwig Tho, qui était le diplomate du côté vietnamien, mais le vietnamien a refusé de recevoir le prix Nobel en disant « la paix pour le moment n'a pas été réellement établie ». Kissinger, lui, va prendre son prix, bien entendu. avec une relation qui devient de plus en plus difficile avec le président Nixon. Faut dire que je vous ai parlé de leur tempérament que tout oppose. Kissinger est un extraverti, il adore parler à la presse, il est toujours dans les salons de Washington où il fait preuve d'humour, on le voit au bras de jolies femmes. À Paris, il y a même eu un début d'émeute parce qu'il a été aperçu chez Tante Louise en compagnie d'une ancienne élève, une blonde ravissante, et il dit lui-même « le pouvoir est le plus grand des aphrodisiaques ». Or, c'est pas du tout la conception de Richard Nixon, qui n'est quasiment jamais dans le bureau ovale. Vous savez qu'il a installé ses bureaux dans le Building Eisenhower à la Maison Blanche. Il fuit d'ailleurs Washington à chaque fois qu'il peut. Il aime mieux s'installer à Camp David ou dans sa résidence de Californie qui s'appelle San Clemente. En fait, le président Nixon est aussi introverti que son principal ministre, si j'ose ainsi dire, son conseiller d'ailleurs, ce serait plus juste, est extraverti. L'un et l'autre vont devoir régler un nouveau défi, ou plutôt deux, puisqu'en même temps vont survenir quasiment en même temps la crise du Watergate à l'intérieur et, bien entendu, à l'extérieur, la guerre du Kippour. Bonjour André Caspi.
Bonjour.
J'ai été tellement bref, tellement allusif sur tous ces dossiers qu'il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui avec vous, Franck, on découvre une grande personnalité médiatique et politique américaine, Henry Kissinger. Et votre invité, c'est André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne et auteur des présidents américains de Washington à Obama avec Hélène Arter chez Taillandier.
Alors, chez Talendier.
Talendier, pardon.
Et donc, André Caspi, je vous signale que, comme à la grande époque du KGB, nous sommes filmés. Je précise ça parce que certains de nos auditeurs sont étonnés qu'il y ait eu un petit problème au début.
Alors ça, et nous sommes. L'essentiel est de savoir ce que vous faites du film.
C'est ça. Ben ça, après, on le détruit, bien entendu. Vous imaginez. Il faut revenir sur ce duo bizarre, ce mariage de raison, comme dira la fille de Kissinger d'ailleurs à propos du sujet, en disant que Nixon et Kissinger n'étaient pas faits pour s'entendre d'une certaine manière. Ils sont difficiles à accorder.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt commun. Ce sont l'un et l'autre de grands connaisseurs des affaires internationales. L'un et l'autre sont des spécialistes. Mais Henry Kissinger, c'est l'universitaire qui a commencé par connaître ses affaires sur un plan théorique.
Mmh, sur papier.
Tandis que Nixon, lui, il a fait son apprentissage sur le terrain. Et il faut rappeler que tout au long de la présidence d'Eisenhower, de 1953 à 1961, Richard Nixon était le vice-président et qu'il était plus particulièrement chargé des voyages à l'étranger. Il a d'ailleurs subi les outrages des manifestants d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance des affaires internationales qui était très profonde, au même titre que Kissinger.
C'est ça, c'est pas du tout un néophyte,
pas du
Nixon.
Tout.
Il connaît
même,
très bien la planète.
Je vais même plus loin. Je pense que, vraisemblablement, Richard Nixon est de tous les présidents américains celui qui connaissait le mieux les questions touchant à l'avenir et au présent du monde. Donc, ça veut dire que cette alliance entre Kissinger et Nixon, c'est au fond l'alliance entre deux spécialistes. Mais il y a des différences entre les deux. Pour des raisons qui n'ont rien de rationnel, Richard Nixon se méfie de Kissinger à deux titres. Le premier, tout d'abord, c'est que Kissinger est un universitaire et comme vous l'avez très bien rappelé, Nixon a beaucoup de méfiance à l'égard des intellectuels, des universitaires, de tous ceux qui ne sont pas, en somme,
oui,
dans le monde politique.
Oui.
Et puis la deuxième raison sur laquelle il faut quand même dire quelques mots, c'est que Richard Nixon est plutôt antisémite.
Et voilà, il parle de Kissinger comme de son boy juif, hein, c'est
oui,
quand même incroyable.
Et il va même plus loin, c'est-à-dire que, par exemple, au temps de la présidence de Nixon, il y avait de très fortes discriminations, des persécutions de juifs soviétiques. Les États-Unis s'en préoccupaient, mais Richard Nixon avait donné comme instruction que Kissinger, lui, n'y soit pas mêlé, parce que il se méfiait en somme de Kissinger. Ce qui n'a pas empêché par la suite Kissinger de jouer un rôle important dans la guerre du Kippour. Mais ça veut donc dire que, entre les deux hommes, la méfiance existe. Et cette méfiance, sur ces deux terrains, s'est accrue encore avec un troisième terrain, lorsque Nixon a été accusé dans le scandale du Watergate,
oui.
Et bien entendu, Kissinger ne tenait pas spécialement à y être mêlé, parce qu'il n'y était pour
il
rien.
Il s'en lavait même les mains.
Il voulait s'en dégager. Ouais. C'est-à-dire que, de ce fait-là, Kissinger apparaissait un peu comme celui qui trahit le patron. Et du coup, Nixon s'en méfiait encore davantage. Il avait toutefois une raison pour laquelle il n'avait pas... Il ne pouvait pas se méfier de Kissinger, c'est que Kissinger, qui est né à l'étranger, en Allemagne, comme vous l'avez dit, ne pouvait pas briguer la présidence. Autrement dit, il était certain que Kissinger, arrivé au sommet des affaires internationales aux États-Unis, ne pouvait pas aller plus loin. Du coup, il n'était pas un concurrent de Nixon.
Il y a parmi les collaborateurs de Nixon un certain nombre d'ennemis de Kissinger, il faut bien le dire, qui disaient que Kissinger essayait à la fois de se montrer le plus possible en compagnie du président, pour qu'on ait l'impression qu'il était le plus proche possible du président des États-Unis, tout en montrant systématiquement, notamment aux journalistes, qu'il le méprisait beaucoup et qu'il le considérait comme une sorte quasiment d'inférieur. C'est un double jeu terrible.
Et en même temps, Nixon tenait beaucoup à ce que la décision soit prise par lui, qu'il en soit le principal bénéficiaire, qu'il s'agisse du voyage à Pékin, du voyage à Moscou ou de toutes les autres affaires qui ont touché les relations des États-Unis avec le reste du monde, Nixon voulait rester le maître. Il ne voulait pas partager une miette de sa réputation avec Kissinger. Donc c'est un duo très curieux, c'est un duo qui n'a rien de fusionnel, c'est un duo de deux personnalités qui s'opposent mais qui en même temps ne peuvent pas faire autre chose que collaborer.
Alors dans un instant nous allons venir aux deux grands chapitres du Watergate et de la guerre du Kippour qui sont la fin de la présidence Nixon. On dira aussi un mot de Kissinger en tant que secrétaire d'État du président Ford. Mais avant cela revenons peut-être sur cette guerre du Vietnam qui est un sujet à la fois de politique intérieure et extérieure pour les États-Unis mais qu'a eu à gérer Henry Kissinger. Il avait beaucoup de mal avec ça.
Alors, il faut rappeler que Nixon a fait sa campagne en 1968 notamment en prétextant qu'il avait un plan pour arrêter la guerre du Vietnam. Et c'était indispensable, puisque les Américains sont impliqués dans cette guerre depuis 1961. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, le nombre des soldats américains
par 10,
qui partent au Vietnam, le nombre des morts, il y a quand même eu 57 000 morts américains dans cette guerre du Vietnam.
2 000 morts par mois au début de la présidence Nixon.
Et ça veut donc dire qu'en 1968, au moment où la campagne va commencer, Lyndon Johnson prend une décision importante, deux décisions importantes. La première, c'est d'ouvrir des négociations avec les communistes vietnamiens. Et la deuxième décision, c'est-à-dire pour montrer sa sincérité, c'est de promettre qu'il ne se représentera pas à la présidence des États-Unis. Ça veut donc dire que le futur président des États-Unis devra, en somme, trouver une solution. Et pour trouver cette solution, Nixon, qui entre en fonction en janvier 1969, a mis 4 ans, puisque les accords qui mettent un terme à la guerre du Vietnam datent de janvier 1973. Ça veut donc dire que pendant 4 ans, il faut trouver le moyen d'arrêter ce conflit, d'arrêter un conflit dont les Américains savent qu'il ne mène à rien, un conflit qui est sanglant pour eux et plus encore pour les Vietnamiens. Et c'est la raison pour laquelle Kissinger et Nixon s'engagent dans cette reconnaissance de la Chine. C'est aussi la raison, et ça on ne le dit pas assez, pour laquelle dans un premier temps, les Américains se mettent à bombarder le Cambodge pour contraindre les Vietnamiens communistes à entreprendre des négociations de paix. Et du coup, on accuse encore aujourd'hui, bien des années plus tard, Kissinger d'avoir commis des crimes contre l'humanité, puisqu'il a soutenu ces bombardements du Cambodge, qui ont fait de très nombreuses victimes civiles, et qui ont abouti à l'arrivée des Khmers rouges un peu plus tard. Donc vous voyez, la situation de Kissinger dans l'histoire n'est pas simple.
Et surtout lorsqu'on a affaire à des personnalités comme Kissinger, toujours ce décalage entre la théorie et la pratique, si je puis dire. Or, qu'on le veuille ou non, la politique, ça reste d'abord, c'est de la pratique. Une question d'Hubert via Twitter qui nous dit « Mais que fait-il aujourd'hui ce monsieur Kissinger ?» Eh bien, nous vous répondons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes aux États-Unis aujourd'hui avec vous, Franck Ferrand, et votre invité André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne, et nous découvrons l'histoire d'Henry Kissinger, cet homme politique. Alors que devient-il aujourd'hui ?
Que devient-il ?
D'abord, il faut rappeler que Henry Kissinger aujourd'hui a 92 ans.
Oui.
Il marche difficilement, mais la tête fonctionne bien. Et il a été tout récemment auditionné par une commission du Sénat. Je crois qu'il continue à réfléchir. Il ne joue plus un rôle politique parce que d'abord il est républicain et le président est démocrate. Donc il n'y a aucune raison que Barack Obama fasse appel à Kissinger. Mais il a conseillé de près ou de loin son prédécesseur, c'est-à-dire George W. Bush. C'est un homme qui continue en somme à inspirer à la fois de l'admiration pour beaucoup des actions qu'il a entreprises, notamment la réconciliation avec la Chine, qui est un élément fondamental dans l'histoire des États-Unis et je dirais dans l'histoire du monde.
Oui.
Mais d'autre part, il suscite aussi la controverse parce que aujourd'hui encore, on lui reproche le bombardement du Cambodge. Aujourd'hui encore, on lui reproche son intervention au Chili qui a abouti à l'avènement de Pinochet.
Il a joué un rôle personnel dans cette affaire ?
Oui, il a joué un rôle en ce sens que les États-Unis ne pouvaient pas laisser l'Amérique latine se débrouiller toute seule. Donc il y a toujours des interventions américaines dans cette affaire. Ça veut dire aussi que Kissinger est à la fois un homme admiré et contesté, mais on sait, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, que c'est certainement l'un des grands spécialistes des relations internationales.
Alors, vous nous avez dit, André Caspi, qu'il avait tout fait pour essayer de se tenir à l'écart du maelstrom, hein, de cette terrible affaire du Watergate en 1973 et 1974. Or, au moment même où l'administration Nixon est embourbée dans cette affaire qui devient une affaire d'État tout à fait considérable, survient la fameuse guerre du Kippour
en 73. La guerre du Kippour éclate en septembre 1973. Mm-hmm. Donc c'est au moment où l'affaire du Watergate prend aussi son aspect le plus dramatique, puisque quelques mois plus tard, en août 1974, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le président démissionne. Nixon s'en va, mais Kissinger reste. Kissinger reste d'abord parce que du point de vue des relations internationales, il est indispensable. Il a su trouver les moyens, non pas de réconcilier les Égyptiens et les Israéliens, ça viendra plus tard, mais en tout cas d'arrêter le conflit avant que les Israéliens ne remportent une victoire totale, écrasante, qui aurait empêché Anwar el-Sadat d'imaginer quoi que ce soit d'une relation pacifique avec Israël. Et puis, il reste aussi au pouvoir parce que c'est l'homme de la situation. Et du coup, le successeur de Richard Nixon, Gerald Ford, se dit « mais pour prendre un autre secrétaire d'État, c'est impensable ». D'ailleurs, Kissinger n'était pas secrétaire d'État, il était conseiller à la sécurité nationale. Donc avec Gerald Ford, il devient secrétaire d'État. Il n'a plus cette espèce de concurrent qu'il avait connu pendant les années Nixon. Il n'y a plus au département d'État quelqu'un qui pourrait limiter son pouvoir.
Ouais, il est sans contrôle et sans limite,
il
là,
est
si
sans
je puis
contrôle,
dire.
Sans limite, d'autant plus que Gerald Ford n'a pas du tout les connaissances, que Gerald Ford n'a pas du tout l'habileté, la force de persuasion de Richard Nixon, ce qui veut dire que là, vraiment, le règne de Kissinger arrive entre 1974 et janvier 1977, quand le successeur de Ford devient président des États-Unis, c'est-à-dire Jimmy Carter.
À ce moment-là, pendant de 74 à 77, on pourrait presque dire de Kissinger qu'il est un président de l'ombre, d'une certaine manière. Pas de l'ombre, d'ailleurs, puisqu'il est, sous les feux de la rampe.
Il est sous les feux de la rampe, jusqu'à 1974. Enfin, disons que pendant quelques années, il était beaucoup sous les feux de la rampe et il est devenu une sorte de people. Oui. Il sortait avec beaucoup de jeunes femmes, à tel point, d'ailleurs, que Nixon le lui reprochait. Nixon lui demandait d'être un peu plus discret. Mais comme à partir de 1974, il s'est marié, j'imagine qu'il est devenu un peu plus sage.
J'aime bien le « j'imagine ». Alors cette guerre du Kippour, il faut en dire un mot, les négociations se font avec Golda Meir à l'époque.
Oui. Alors les négociations sont avec Golda Meir et Golda Meir pensait que
Premier ministre de l'État d'Israël,
ce serait facile avec Kissinger puisque Kissinger est juif. Mais Kissinger lui répondait « attention, moi vous savez, je suis américain d'abord et juif ensuite », à quoi Golda Meir répondait « mais ça n'est pas grave, parce qu'en hébreu, on écrit de droite à gauche
». Donc on lit dans l'autre sens, voilà. En quelque sorte. Les négociations ont abouti à un résultat, il faut le dire quand même.
Alors les négociations ont abouti à un résultat, c'est-à-dire que la guerre s'est arrêtée, et petit à petit, l'idée s'est incrustée chez les Égyptiens qu'il fallait trouver le moyen de sortir de ce conflit. Et c'est pour cela qu'en 1977, il y a eu cet événement extraordinaire au Moyen-Orient, Anwar el-Sadat, le président égyptien, qui vient à Jérusalem, devant la Knesset, pour dire aux Israéliens « réconcilions-nous ». Et bien sûr, il est accueilli en héros par Begin, qui considère que c'est le début, en somme, d'une ère de paix, et en effet, puisque l'année suivante, ce sont les accords de Camp David qui mettent fin à l'état de guerre entre l'Égypte et Israël. Et je vous signale que ces accords de paix sont encore valables aujourd'hui, même si c'est une paix plus froide que chaude entre l'Égypte et les Israéliens.
Certains psychologues parlent de tempérament banalisant. Il y a quelque chose de banalisant chez Kissinger, lié sans doute au réalisme de sa politique et des analyses qu'il fait des différentes situations. À propos de cette guerre du Kippour, il dira « c'est un conflit local qui est devenu régional puis international. Ma seule ambition dans cette affaire, c'est de le faire redescendre au niveau régional puis local. » Quant à résoudre la question au fond, personne n'y parviendra jamais.
Oui, je crois qu'il faut, à propos de Kissinger, prononcer un mot, et un mot capital. Kissinger est partisan du réalisme. C'est un réaliste, c'est-à-dire que ce qui compte pour lui, c'est la situation la meilleure pour les États-Unis. Il n'essaye pas de réfléchir à ce que pourraient être les droits de l'homme. Il ne fait pas une politique idéologique, il fait une politique du terrain. Et c'est la raison pour laquelle une réconciliation avec la Chine, de meilleures relations avec l'URSS, imaginer tout simplement qu'Égyptiens et Israéliens puissent de nouveau s'entendre, ça lui paraît du bon sens. Et ça lui paraît en somme quelque chose qui permette le maintien de la paix, ou en tout cas d'éviter les conflits qui pourraient engendrer des catastrophes, puisque dans le cas des relations américano-soviétiques, les deux puissances sont des puissances nucléaires et qu'en conséquence, tout conflit dégénérerait en une guerre atomique.
Est-ce que c'est parce qu'il est justement très réaliste que Kissinger n'accorde qu'un intérêt très secondaire à ce qui étaient les alliés historiques des États-Unis et, je pense naturellement, à la France, qui n'occupe pas une très grande place dans ses préoccupations, semble-t-il?
C'est-à-dire que Kissinger considère que la France, en tant que telle, est une puissance moyenne, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, et il pense que ce serait peut-être plus important s'il y avait une véritable Union européenne. Or, pendant les années Kissinger, cette Union européenne, elle en est encore à ses débuts, et on peut se demander d'ailleurs aujourd'hui si elle a fait beaucoup de progrès. Mais toujours est-il qu'il est de fait que pour Kissinger, la France n'est pas un allié indispensable. Oui, bien sûr, il faut que la France reste dans le camp américain, mais ça n'est pas un allié sur lequel on peut compter. On peut compter peut-être davantage sur la Grande-Bretagne. Ça, c'est une tradition aux États-Unis. Avec la Grande-Bretagne, oui, les relations sont confiantes. Avec la France, il faut se méfier parce que, aussi à cette époque-là, le Parti communiste en France est très puissant, ce qui fait peur à Kissinger. Et Kissinger s'est toujours demandé si, un jour ou l'autre, la France et l'Italie les deux nations
n'allaient pas rebasculer dans le communisme.
Oui, exactement. Hein. C'est-à-dire n'allaient pas, en somme, passer d'un camp à l'autre et par conséquent pouvaient être des alliés un peu fragiles.
Il y aurait encore beaucoup à dire, évidemment, sur Henry Kissinger et sur cette époque d'une très grande complexité, on s'en rend compte. Hein. Si vous voulez en savoir davantage sur le personnage, je vous conseille la biographie de Charles Zorgbib. Ça s'appelle tout simplement Kissinger aux éditions de Fallois. C'est à partir de ce livre, notamment, qu'a travaillé Christophe Dard pour préparer cette émission. Merci beaucoup d'être venu une fois de plus nous rendre toute cette situation tellement limpide, André Caspi. Je rappelle le titre de deux de vos derniers livres, Les présidents américains de Washington à Obama, avec Hélène Arter, ça c'est chez Talendier, et puis Les Américains aux éditions du Seuil, c'est en deux tomes, ça va de 1607 à 1945 pour le premier, et des États-Unis de 1945 à nos jours pour le second, André Caspi, au Seuil donc. Merci beaucoup.
Un instant sur Europe 1, Franck Ferrand répondra à la question de Chris sur Facebook qui veut en savoir plus sur l'origine de l'expression « une armée mexicaine ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à une question de Chris via la page Facebook de l'émission. Quelle est l'origine de l'expression figurée « armée mexicaine » ?
Ben là, ça c'est facile. C'est une expression qui remonte à la Révolution mexicaine de 1910. Crise très forte, hein, déclenchée par les rebelles Emilio Zapata et Pancho Villa, vous connaissez bien entendu, qui vont soulever, c'est un soulèvement anarchiste si vous voulez, hein, contre le dictateur Diaz, qui sera amené à démissionner en 1911. Alors, évidemment, ces forces insurrectionnelles, elles sont composées en grande partie de paysans. Hein, il faut lever des troupes un peu partout et vous imaginez à quoi ressemble l'armée avec de grands guillemets de ces rebelles. Eh ben, les promotions se font très facilement. Alors toi, t'es capitaine, demain tu seras commandant. Bref, ce qu'on appelle une armée mexicaine, c'est une armée dans laquelle il y a beaucoup plus d'officiers que de soldats, beaucoup plus de dirigeants que d'exécutants. Ça ressemble à certains de nos bureaux d'aujourd'hui et je ne sais pas si c'est ce à quoi fait allusion Chris en posant sa question, bien entendu. Sans aucune transition, je vous signale que demain matin à 9h, nous allons enregistrer une émission à la Monnaie de Paris. Elle sera diffusée vendredi prochain. Nous allons visiter la Monnaie de Paris, le restaurant de Guy Savoy, etc. Nous allons parler de cette institution extraordinaire au cœur de la capitale. Il y a quelques places encore à récupérer sur le site d'Europe 1, sur le site de...
Le club
Europe 1, voilà. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck. Pourquoi fume-t-on toujours plus de cannabis? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h, alors que les chiffres de la consommation en France sont en constante augmentation, que ce soit chez les jeunes et, surprise, chez les moins jeunes. Alors le pétard du soir est-il plus dangereux qu'on voudrait le croire? On y répond dans 5 minutes.
Merci beaucoup Marion, nous nous retrouvons demain à Nice.
À demain, avec grand plaisir. C'était Franck Ferrand sur Europe 1.